Vibration Gay Radio, c'était Coldplay à l'instant avec Speed of Sound. Nous sommes dans cette émission Chromosome X dans laquelle nous parlons santé sexuelle avec David qui nous a rejoint parce que David, on va t'accueillir pour un témoignage dans cette émission. Nous sommes aussi donc avec Emeric qui nous a fait tout à l'heure la partie un peu plus théorique. Donc au niveau du VIH et bien sûr toujours avec nos deux autres acolytes.
Oui, bonjour.
Voilà.
Bonjour, nous sommes là.
On dit ça non-stop, on dit à chaque fois bonjour.
Oui, mais c'est sympa.
Bonjour, on aime bien bonjour, se dire bonjour.
Bienvenue sur Chromosome X.
Voilà, ceux qui nous rejoignent en cours de route.
Voilà.
On dit bonjour.
Alors, David, justement, c'est très drôle parce que avant qu'on s'assoie ici, tu parlais des termes. Parce qu'en fait, des termes, il y en a dans. Pour dire certaines choses, il y en a, mais des différents dans tous les sens. Hein, c'est
exactement,
ça
oui.
Donc, on va parler de quoi? On va dire que tu es séropositif, c'est ça?
Non.
Non, on peut pas le dire. On doit dire quoi?
Alors, écoute, j'étais séropositif du mois de février 2009 au 15 septembre 2010, date d'accord. à laquelle mon médecin m'a annoncé mon indétectabilité.
Voilà.
Ce qui veut dire qu'en fait, dans les laboratoires médicaux, on ne peut pas analyser et identifier le virus dans le sang s'il y a moins de 20 copies. Par micro.
20 copies du virus, c'est ça?
Ouais, okay. Exactement.
Ah.
Et en étant, donc on peut avoir entre 0 et 19 copies. C'est-à-dire okay. dans le sang, c'est ce qui donne en fait ce titre d'indétectable ou de séroneutre. J'aime le terme séroneutre.
Ah, il parle de séroneutre, c'est ce qu'on disait. Hein.
Une question pratique par rapport à ça. Par exemple, tu te présentes dans un laboratoire d'analyse sans rien prévenir et puis tu demandes à un dépistage du VIH.
Le dépistage rapide risque de sortir négatif.
Le dépistage rapide risque de sortir négatif, mais par contre, un dépistage.
Avec la prise de sang, il y a de toute façon des traces.
Là, par contre, ils pourront détecter le VIH.
C'est plus des traces liées à des anticorps.
Avec les anticorps qui sont présents, d'accord.
Alors, on va faire un petit peu ton. Je sais pas comment on veut procéder. Je pense qu'on va parler un petit peu de comment ça s'est passé. Il y a donc la partie avant, c'est le moment où tu vas faire le test.
Tout à fait.
Comment ça se passe ce moment-là? Enfin, t'as eu une prise de risque, tu t'es dit je vais faire le test ou comment? Explique-nous un petit peu.
Ah non, alors c'est carrément suite aux effets de ma séroconversion, soit ma primo-infection. Tout à l'heure, vous avez posé la question de à partir de quand sommes-nous séropositifs?
Ouais.
Nous le sommes à partir de la séroconversion, c'est-à-dire que c'est au moment, si vous voulez. Lors de l'infection, le virus va se cacher dans des ganglions, dans des cellules. Il va se répliquer. Mm-hmm. Et 6 semaines après, en fait, il va se libérer dans l'entier de l'organisme et il va exploser.
Ah, c'est comme une bombe, ça, à un moment où ça...
Pendant la période de primo-infection, vous êtes 100 fois plus infectieux qu'une personne qui est séropositive ou séroneutre. Enfin, séropositive, plutôt non traitée, depuis 6 mois, par exemple, est moins infectieux que la personne en primo-infection. À ce moment-là, c'est vraiment une explosion.
Okay.
À savoir que 6 semaines après ce rapport à risque, j'ai fait 3 jours de fièvre à plus de 39 degrés sans aucun autre symptôme, en fait.
Okay.
Aucun autre symptôme grippeux. C'était donc la primo-infection. Et 10 jours plus tard, j'avais un ganglion d'1 centimètre qui était sorti derrière la tête.
Ah ouais, donc.
Et c'est lors de la biopsie, en imaginant que c'était un cancer, en fait, mon partenaire sexuel du moment a fait une hépatite B. Et en arrivant à la clinique pour faire justement cette biopsie, j'ai exigé le test VIH parce que j'étais certain que c'était en fait le VIH et non pas un cancer par rapport à ce ganglion. Et j'ai fait la prise de sang le jour même dans la clinique. Le soir, mon médecin m'a téléphoné à 5h en me disant « David, il faut que tu passes ».
Ouais.
Et je lui ai dit « Oui, c'est bon, je sais ».
Donc là, c'était déjà... T'avais plusieurs choses autour qui disaient que enfin tu étais déjà convaincu, donc c'est pas un test et tu as la surprise du test qui tombe comme ça.
C'était une surprise oui et non.
Ouais.
On dira.
Et comment tu réagis à ce moment-là alors
quand un tsunami dans ta gueule.
Ouais.
Complètement. Ouais. Je me rappelle quand mon médecin a utilisé le terme en fait, à ce moment-là, il continue de parler, moi ça bourdonne dans ma tête. J'ai l'impression que je ne sens plus de la même manière, que je ne vois plus de la même manière.
Ouais.
Et en sortant du cabinet médical, oui, il y a eu un avant et un après 8 mai 2009.
Ok, là ça reste marqué en toi.
Et ça reste vraiment, il y a un avant et un après.
Ouais. J'imagine que ça doit être aussi... un médecin parlera beaucoup de plein de choses, mais en fait on est... je comprends vraiment bien le moment où il y a des doigts, ce bourdonnement et tout ce qui doit résonner à l'intérieur. Ouais.
Résonne à l'intérieur, c'est l'inconscient collectif, c'est ce que nous avons enregistré, vous et moi, au courant des années 90. L'arrivée des trithérapies en 1996 a créé l'invisibilisation des personnes porteuses du VIH. Et on se retrouve 20 ans plus tard à continuer à avoir ces vieux schémas erronés en tête. Moi, je le dis franchement, j'ai vu Tom Hanks dans Philadelphia dans les 10 dernières minutes du film. J'ai la campagne de Benetton de l'époque, du sidérant en fin de vie, dans son lit, en train de mourir. Ouais, c'est ces images-là qui me viennent.
Ouais, à ce moment-là. Ouais.
À ce moment-là, clairement.
Ouais.
Comprenez bien, j'avais 12 ans en 1990. Nous, on a été éduqués par sida égale mort.
Ouais.
Et en fait, avant de nous expliquer les plaisirs de la sexualité, on nous en a fait peur.
Ouais, bien sûr.
Par rapport à... Et je pense que c'est ce qui est le plus difficile à déconstruire, en fait. C'est ces images erronées que l'on a. Parce que comprenez bien que moi, je sortais de 7 ans de relation avec un garçon où j'avais complètement quitté le domaine et associatif LGBT et la communauté LGBT, d'ailleurs.
Ouais.
Je sortais dans le milieu électro, j'étais plus du tout dans les mêmes sphères, j'étais plus autant informé. Et effectivement...
C'était la question que je voulais savoir, c'était est-ce que à ce moment-là, t'étais informé ou bien rien du tout?
Okay. Enfin, informé, dans la mesure où je faisais partie, en fait, que je m'occupais de la prévention à Alpagué à la fin des années 90.
Ouais.
Donc, en plus, c'est ça qui est terrible, c'est qu'en plus, il y a une forme de culpabilité de vous dire, mais attends, toi qui a vendu ce préservatif auprès de toute la nouvelle génération de gays valaisans, qui a fait justement cette partie de prévention, te retrouver 10 ans plus tard dans cette situation-là, ça a été assez difficile à gérer, ouais. Sur le moment, en fait.
Mais justement, je voulais poser la question par rapport à ce sentiment de culpabilité, en fin de compte.
C'est le sentiment de ne pas s'être respecté.
Voilà, ouais.
Parce que, voilà, j'étais 7 ans en relation avec un garçon, je le quitte le 1er janvier 2009, je me fais infecter la dernière semaine de février 2009.
Ouais, non, c'est...
Premier rapport non protégé. Et l'erreur que j'ai fait, c'est l'erreur traditionnelle qu'on peut faire pendant une certaine période, j'ai fréquenté les lieux de sexe dans les grandes villes européennes, mais j'ai toujours considéré ces endroits comme des usines à maladies, en fait.
Ouais.
Et j'ai toujours été très à cheval dans les saunas, dans les sex clubs, au niveau de la prévention. Et ce garçon que j'ai rencontré en février 2009 par le biais des applications de rencontres, en fait, je l'ai pas considéré comme un danger.
Parce que c'était pas dans le milieu.
Dans ce cadre-là.
Ouais. Dans ce cadre-là.
Et que le soir même, voilà, c'était un psychothérapeute avec un pull en cachemire, un appartement art déco, on avait fait un souper aux chandelles, on avait discuté, son test remontait de novembre 2008, mon test remontait à novembre 2008 suite à une gay pride un petit peu, voilà. Et au mois de février, il était en pleine primo-infection.
Ah voilà. Et donc ça, c'est donc la vraiment la période où on ne sait pas. Enfin,
c'est la période où on...
Et où ça explose,
Il m'avait dit qu'il était extrêmement fatigué ces derniers jours, mais extrêmement fatigué à fin février.
Voilà,
comme tout le monde, quoi.
C'est les
Parce que comprenez bien que moi j'ai fait 3 jours de fièvre à 39 degrés. Il y a des personnes qui peuvent se retrouver jusque dans des comas liés à la primo-infection. Une grande majorité, ça passe tout droit, vous ne voyez rien.
Ouais.
Mais rien du tout.
Juste une grosse fatigue.
Mais même pas forcément.
Même pas forcément.
Tu te rends pas compte. Tu étais en primo-infection depuis peut-être. Toi, t'as fait 2 semaines, mais tu peux être en primo-infection depuis des mois.
Je récolte des témoignages sur le ZAN de personnes qui apprennent leur séropositivité en étant au stade sida. Ça veut dire qu'ils ont développé la première maladie opportuniste. C'est un petit peu moche quand ça fait 7 ans que tu ne t'es pas fait tester. Et que tu commences à avoir une petite marque noire sur la peau en te disant « Mais tiens, qu'est-ce que ça peut être ?» Tu vas voir ton dermato, puis en fait, t'as un sarcome de Kaposi. C'est un début de cancer qui est souvent lié. Les personnes sidéennes, à l'époque, elles avaient souvent des taches sur la peau. En fait, c'est un cancer de la peau qui est une maladie opportuniste liée au fait que vous n'avez plus assez de système immunitaire. La personne qui m'a donné ce témoignage, il a fait 2 ans de chimiothérapie et de rayons, 14 cycles.
Avant de se rendre compte?
Simplement parce que la problématique, il s'est pas fait tester pendant 7 ans. Et quand il a appris qu'il avait un sarcome de Kaposi, donc qu'il était en phase sida, il était atteint d'un cancer.
Oh, donc ils traitaient le cancer.
Donc pour traiter, ils ont traité, si vous voulez, ils ont traité directement la séropositivité.
Ah.
Parce qu'il faut bien comprendre que le stade sida, vous arrivez en fait, le stade sida, c'est que le virus a détruit tous les CD4. C'est tous les globules blancs, c'est tout votre système immunitaire. Il n'y a plus de système immunitaire. Et la moindre petite saloperie qui passe, ben vous l'attrapez. Mais comprenez également que maintenant, avec l'avancée des traitements, la personne qui est en stade sida, elle commence sa trithérapie. Dans les 3 à 6 mois qui suivent, elle est de nouveau indétectable. Elle n'a plus de virémie. Après, par contre, son système immunitaire, la problématique, c'est que ça peut prendre 3 à 5 ans pour être de nouveau dans des tendances normales. Mais on n'est plus dans les années 90. Il faut comprendre que même le terme sida, à l'heure actuelle, dans nos pays industrialisés, moi, je trouve qu'il sonne comme une insulte par rapport à l'avancée médicale. À l'heure actuelle, les cas détectés de sida en Suisse, ce sont justement des personnes qui ne se font pas tester.
Qui ne sont pas au courant.
Et qui découvrent, par le biais de leur maladie opportuniste. Mais la situation que je viens d'expliquer, c'est 7 ans où la personne a pu potentiellement infecter
d'autres partenaires. C'est ça qui fait extrêmement peur. C'est quand même 7 ans de rencontre et de vie dans une vie. Voilà, nécessairement, c'est clair que ça pose quand même un problème. Mais ça, c'est vrai que je suis assez abasourdi par le fait que pendant 7 ans, on ne peut donc pas faire de test.
Bien sûr, oui, il y a des gens qui...
Il y a des gens qui sont dans le déni
qu'on fait. Pas, quoi.
Ok.
Ouais.
Bah, qui reconnaissent plus ça comme étant une problématique, et il y a une forme de déni aussi. Mais écoutez, la problématique, c'est que tant que vous continuerez à vivre votre test comme une montée à l'échafaud et le test réactif comme l'annonce de votre condamnation à mort, on ne réglera pas le problème du VIH.
Donc toi, tu parles vraiment de ces images erronées, en fait. C'est ça le problème.
En fait, oui, de ces images idées qui ont pris le dessus.
Des années 80, de début 90, où on était vraiment dans une vision assez...
Je te demanderai, maintenant je te pose la question, en 2016, quelle est l'image que vous avez dans les médias du VIH? À la télévision, dans les médias, les journaux? Je veux dire, on nous rabâche toujours Freddie Mercury, on nous rabâche toujours des personnes comme ça. Comprenez bien que moi, j'ai aucune Lady Gaga qui vient chanter Born This Way à mes oreilles. J'ai aucune figure d'identification positive d'une personne vivant avec le VIH aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai. Soit on ne les voit pas, soit on parle pas de ça, soit on parle de manière toujours ça
négative.
C'est les médias. Les médias,
toujours.
Les médias sont là pour dramatiser les choses. Donc, dans le fond, en effet, ils dramatisent.
Enfin, on regarde un témoignage d'une personne vivant avec le VIH à la télévision. On va mettre un éclairage super pâle. On va te mettre une musique avec des violons, et généralement, la personne qui témoigne est un survivant des années 90 qui vient de réexpliquer comment tous ses potes sont morts.
Ouais.
Est-ce qu'on pourrait une fois avoir une version, moi j'appelle ça la version 2.0, c'est-à-dire ceux qui ont été infectés après l'arrivée des trithérapies? Parce que notre vie, moi ça me fait rire.
Alors justement, franchement. On peut parler de l'après, parce que donc toi, au moment où tu l'apprends, donc toi t'as toutes ces images erronées qui défilent dans ta tête. Ensuite, c'est là que tu vas commencer ton chemin et découvrir qu'en fait, ces images sont erronées, c'est ça?
Oui. Oui, ça a été. La première année, ça a été un cauchemar total.
Ouais.
Parce que j'avais un généraliste, j'avais une psychiatre, j'avais un infectiologue, et je me suis complètement isolé et retrouvé complètement seul. Comprenez qu'en 2009, on suivait des réglementations de 2008 et que le traitement n'était pas prescrit immédiatement. À l'époque, on privilégiait d'attendre en fait que le niveau des globules blancs soit passé en dessous d'un certain seuil pour donner les traitements. Parce qu'il faut comprendre que les premiers traitements, généralement, créent dans le temps des adhérences. Donc on se disait que plus tard on commence le traitement, plus longtemps il pourra prendre le traitement. À l'heure actuelle, avec les nouveaux traitements, les adhérences, vous risquez une adhérence uniquement si vous n'êtes pas observant. C'est-à-dire que ces traitements sont très sensibles à l'adhérence, mais dans la mesure où je le prends correctement tous les jours, mon espérance de vie n'est pas diminuée, et jusqu'à preuve du contraire, je peux continuer avec ce traitement. Ça fait 5 ans que je bouffe le même cachet tous les jours.
Ok.
Elle est là, la réalité, en fait.
Donc cette année-là, c'est quand même une année difficile.
C'est une année extrêmement difficile, jusqu'à la rencontre de ma figure d'identification positive. J'ai rencontré un garçon qui était infecté depuis le début des années 90, un survivant également de toute cette période. Et à l'inverse des associations, des institutions ou des médecins, il m'a pas donné la théorie, il m'a montré comment il vivait au quotidien.
Ouais, je pense que c'est vraiment extrêmement important de dépasser Ouais, parce qu'un médecin va rester très
c'est très théorique.
Mon infectiologue, la première fois que je l'ai rencontré, il a commencé à me faire le dessin du schéma de la primo-infection, mais en expliquant justement cette problématique 100 fois plus infectieuse. 100 fois plus...
Ah ouais.
Moi, je voyais la feuille devant moi, il y avait juste marqué test positif en gras. Je n'ai pas écouté un mot de ce qu'il a dit, je n'ai pas décollé. Et ce qui avait de terrible à l'époque, c'est que ce médecin vous disait « Bon, bah écoutez, par rapport aux chiffres, tout est en ordre, on se revoit dans 6 mois. »
Par rapport aux chiffres, ouais.
C'est ouais, ça. Par rapport aux chiffres, tout est en ordre, on se revoit dans 6 mois. Moi, pendant une année, je me suis considéré comme une bombe humaine. Je n'ai eu aucun rapport avec qui que ce soit pendant plus d'une année. Et ça a quand même foutu en l'air une partie de ma sexualité.
Ouais.
À cause de cette problématique, parce que j'ai ancré certaines choses, j'ai même fait le deuil de certaines choses à cette époque-là. Vous comprenez que oui, moi, ce garçon, séropositif, enfin, mon partenaire, quand je l'ai rencontré, il m'a permis de croire que je pourrais de nouveau être en couple, que je pourrais de nouveau avoir une vie normale.
C'est exactement ce qu'on se dit, c'est ça, c'est ça qui est excellent, parce que c'est vraiment ce qu'on se dit. On dit, voilà, une fois qu'on a le test positif, en effet, je vais plus pouvoir rencontrer, il va falloir faire un deuil d'une partie de ma vie. En fait, c'est pas le cas.
Pas du tout.
Pas du tout.
Bah, c'est nous qui... On a la liberté de choisir ses contraintes. Hein.
Mm-hmm.
Mais effectivement, après, la problématique que moi, je mets toujours en avant, la pire des sérophobies, c'est celle qu'on vous fait intérioriser.
Mm-hmm.
Vous comprenez bien que dès les premières minutes qui suivent l'annonce de votre test, votre médecin, les associations, les institutions, tout le monde va vous conseiller de vous taire. Hein. De ne pas en parler pour des questions de sécurité, en brandissant des vieux schémas de peur éculés qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Donc, vous sortez de chez votre médecin qui vous a bien dit qu'il faut surtout pas en parler, vous passez à la pharmacie où vous avez la pharmacienne qui prend son sac en plastique, qui va derrière, qui fait tout un tralala pour pas que les autres clients puissent voir. Moi, à Lausanne, ils ont un mot sur leur ordinateur, ne surtout pas donner de sac en plastique. Parce que j'ai eu une discussion avec la pharmacienne pour lui dire, mais vous vous rendez compte que quand vous faites ça, vous êtes juste en train d'appuyer encore plus
voilà,
que j'ai une maladie honteuse qu'il faut cacher dans un sac au fond du truc.
Mm-hmm.
Ouais. Et les gens vont plus être...
Et vous rentrez à la maison et la première chose que vous faites, vous prenez votre traitement puis vous le cachez au fond de la boîte de nuit, de la table de nuit, parce qu'il faut surtout pas le montrer.
Ouais. Et ça, c'est dingue parce que c'est... Donc, en 2008-2009, ben voilà, c'est pas loin non plus. Hein,
non,
à l'heure actuelle, je ne sais pas si tous les médecins ne continuent pas à donner ce genre de conseils. Hein.
Mm-hmm.
Parce que c'est vraiment, moi, la sérophobie la plus difficile, c'est celle que je me suis imposée à moi-même.
Ouais.
Ça a été de dépasser tous ces schémas. Là, on parle d'indétectabilité. Vous vous rendez compte que les institutions parlent de l'indétectabilité depuis 2006 entre eux.
Mm-hmm.
On est en 2016. Moi, si en 2006, j'avais eu mon niveau de connaissance actuel sur la problématique, sur qu'est-ce qu'était vraiment le vécu d'une personne vivant avec le VIH, l'année 2009, je ne l'aurais pas vécu comme je l'ai vécu.
D'où l'importance finalement de le dire, d'en parler, notamment maintenant. Ça, c'est quelque chose d'important.
La raison pour laquelle je m'engage et que je fais preuve de visibilité, je pars du principe que expliquer qu'est-ce que vivre avec le VIH en 2016, il n'y a que nous, les personnes qui vivons avec, qui sommes en mesure de le faire.
Mmh.
Oui, je pense que c'est aussi très difficile de se rendre compte de ça quand on ne le vit pas aussi.
Clairement.
Des personnes qui n'ont pas le VIH et tout ça, c'est très difficile aussi de se mettre dans la situation et d'essayer de pouvoir concrètement savoir comment on vit avec ça. Et d'où l'importance de ton témoignage et de la visibilité que tu veux donner pour tous les gens qui, comme moi, ou. Pose plein de questions, on en a peur parce que justement on nous a donné cette vision extrêmement négative de tout ça.
Ouais.
Voilà. Continue.
Alors comment ça se passe en 2016 quand tu fais de la visibilité avec le regard des autres et tout ça, comment ça se passe?
Le regard des autres, on va peut-être déjà expliquer qu'est-ce qu'être une personne séropositive en 2016.
Oui.
Une personne séropositive, ça se limite à ça. Un cachet qui est de la taille d'un Priorin N.
Ok.
Comprenez bien, moi je prends toujours cet exemple en plaisanterie, c'est qu'une femme prend une pilule contraceptive pour éviter de partager un enfant, je prends une pilule contraceptive pour éviter de partager un virus.
Mmh. Voilà.
Et je vous laisse bien noter que je n'ai pas dit me sauver la vie, parce que la notion de mort après 7 ans de vécu en tant que PVVIH, je ne suis plus, il n'y a plus aucune notion de mort.
Mmh.
T'as plus ça à l'esprit, non. Mais effectivement.
Mais de la même manière que, je dis toujours en plaisantant, là je vous ai entendu beaucoup utiliser le terme maladie.
Oui.
Oui. Alors le 2 juin, je suis à Engelberg pour aller faire la Fisherman's Friend Strongman Run, qui est une course d'obstacles de 18 km, la plus dure et la plus folle de Suisse.
Mm-hmm.
Je vous invite à venir pousser ma chaise.
Mais c'est
non,
vrai.
C'est ça. Non, mais c'est là où on se rend compte d'effectivement que. Par contre, là où moi je m'aperçois qu'effectivement je suis dans l'erreur et j'avais jamais pris conscience de ça, c'est qu'effectivement, ça reste dans mon esprit avant tout une maladie. Mmh. Et effectivement, quand on prend quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui va pas bien.
Ouais.
On peut pas dire alors, cette personne est malade, mais elle va très très bien, y a pas de souci.
Ah
vois.
Oui, non, c'est vrai.
ça ne marche pas en réalité. Mais c'est vrai que je m'aperçois qu'effectivement, je pouvais. Enfin, non, je le faisais en fait, pas le faire facilement, je le fais. Et que c'est une erreur complète.
Oui. On comprend bien que c'est on comprend bien que ça demande du temps et ça passe par étapes.
Oui.
Non, mais dans la notion que j'ai été porteur d'une maladie mortelle, qui est devenue une maladie chronique, de personne séropositive, je suis devenu une personne séropositive, pour devenir une personne séroneutre. Et là où vous voyez une maladie, moi, j'y vois même plus une infection, j'y vois un statut. Le statut de PVVIH comme le statut de personne homosexuelle. Je fais beaucoup de liens entre l'homophobie et la sérophobie parce que tous les stigmates sont les mêmes mécanismes. Et je vous avoue que je suis un peu en colère contre ma communauté à l'heure actuelle parce qu'on recrée les mêmes schémas stigmatisants qu'ont vécu les homosexuels dans les années 60. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Il faut vivre dans la peur du rejet, soit vivre le rejet ou carrément encore pire, la peur du rejet, la stigmatisation, puis peur que l'information vous appartienne plus. Moi, à chaque fois que j'annonce mon statut de personne séroneutre, potentiellement cette information ne m'appartient plus. Puis on sait très bien comment ça se passe à Disneyland, enfin je vous apprends rien. Je peux dire que tout le monde cause, que les choses
bien
tournent,
sûr.
Et que c'est sûr. Parfaitement évident. Mais elle est là, les formes de stigmatisation. Moi, ça me fait un petit peu rire. C'était sous délation, durant la Deuxième Guerre mondiale, que les homosexuels ont été déportés suite au paragraphe 175. On crée la même forme de délation au sein même de notre propre communauté.
Oui, mais ça, de toute façon, globalement, au sein de la communauté LGBT, il y a un énorme travail à faire. Je veux dire, avant d'aller demander que les autres accepte nos différences.
Il faut
d'abord accepter les différences
entre nous.
De l'autre et en premier, je pense, à l'intérieur de la communauté LGBT, déjà accepter les différences parce que dans la communauté LGBT n'est fait que de différences.
À l'image de notre drapeau, il est diversifié comme les couleurs de notre drapeau. Et la problématique, c'est qu'on est de plus en plus dans un format, effectivement, un schéma hétéronormé qui laisse de moins en moins de place aux personnes qui sortent un tout petit peu du cadre. Dans cette communauté, on est dans cette forme de normalisation qui, moi, m'insupporte en fait. Et puis qu'à un certain moment, j'ai juste envie de vous dire, mais à un HSH sur 5 porteurs du virus dans l'arc lémanique, est-ce que c'est vraiment faire preuve de courage ce que je fais ou c'est être arrêté peut-être d'être un petit peu hypocrite entre nous? Juste la question. C'est 20% des mecs là de notre communauté qui sont touchés.
Bien sûr.
Et il en est quasi de même pour les autres IST. On représente que 3% de la population sexuelle active des hommes. Les HSH, c'est les chiffres qui sont articulés par l'OFSP.
Ouais.
Mais on occasionne autant de situations d'IST et de VIH que l'ensemble des hétérosexuels dans ce pays. Donc il faudrait peut-être juste qu'on arrête 2 minutes d'être hypocrite par rapport à tout ça, puis qu'on puisse peut-être recommencer à poser les choses sur la table. Moi, c'est terrible. J'ai des fois l'impression qu'on était plus solidaires quand on en mourait. C'est un peu provocation.
Non, mais c'est triste à dire.
Mais c'est un peu de la provocation. Mais en même temps, moi, ça fait juste 7 ans. Enfin, ça va faire de. Je me suis engagé dans le. Je me définis comme un électron libre dans la prévention. Je suis rattaché à aucune association ni institution pour garder mon intégrité, en fait. Lors de mes témoignages, pour pas avoir besoin de porter tel ou tel discours, il y a des choses, typiquement. Là, on me parle de PrEP. Moi, je veux pas en entendre parler. De toutes les personnes avec qui je pourrais avoir un rapport, un séronégatif qui vient vers moi en me disant je suis séronec, je prends une PrEP, on peut y aller, mais celui-là je le touche pas.
Parce que c'est une erreur. Mais parce que c'est une erreur de sa part en plus.
Ah non.
Non mais c'est
un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme. Il faut comprendre qu'on est à un changement de paradigme. L'arrivée des médicaments dans le cadre de la prévention est en train de faire. Regardez, aux États-Unis, la PrEP est déjà en place au niveau de la côte Est. La problématique, c'est l'explosion de toutes les IST à côté.
Bien sûr.
À un certain moment, je suis bien d'accord. Ok, je suis indétectable. Si ce soir, j'ai un rapport non protégé ce soir, la seule personne qui prend un risque, c'est moi. Excusez-moi, mais à un certain moment, chacun gère sa propre prévention. Moi, je sais que je sais simplement qu'une interaction avec une hépatite C et mon VIH triplera le montant de mon traitement, qui ne me sera sans doute pas donné tout de suite, parce qu'au vu du prix, ils attendent que le foie soit déjà bien attaqué avant de pouvoir avoir accès à ce traitement-là.
C'est ça, on a oublié, on oublie finalement les autres IST, on est resté croché sur ce VIH, et puis du coup, voilà, il y a une remontée, ça tu peux le dire. Il y a Stop Syphilis qui a été lancé maintenant parce que ça commence à être de retour. Enfin, les gens ont commencé à regarder ailleurs, quoi.
Le truc, c'est qu'on a peur du VIH, on parle que du VIH, du sida, de ci, de ça, mais les autres IST, on les connaît pas.
Ouais, déjà.
Et du coup, vu qu'on les connaît pas, on en a pas peur. Chez les hétéros, le préservatif, c'est pour éviter un bébé. Mm-hmm. Et chez les HSH, le préservatif, c'est pour éviter le VIH. Mm. Et les autres, quand on annonce un test réactif, chlamydia ou syphilis, c'est quoi?
Mm-hmm. Est-ce que j'ai... Ouais, clairement.
Mm-hmm. Alors que, tu sais, y a une augmentation juste folle de toutes ces IST, quoi. Mm-hmm.
Donc. Ouais, bah justement, à force de ce traitement préventif, PrEP.
Ça immunisé contre tout le reste.
Voilà, c'est que dans ta tête, je pense que c'est déjà, voilà, ok, c'est bon, je peux y aller, je fais ce que je veux, et puis justement, il y a tout le reste qui y passe.
Tout le reste derrière, bah oui, c'est ça.
Tout le reste qui y passe, et c'est là où c'est encore plus dangereux, parce que si tu fais attention plus ou moins à tout, parce que tu fais simplement attention. Par contre, là, après, tu dis, bon, bah, ok, one again, quoi, on y va.
Ouais.
Et puis voilà, c'est là que ça se propage.
C'est pour moi que le message est un peu erroné, puis qu'il va falloir peut-être un petit peu plus travailler sur les messages pour amener ça à la population. On peut pas l'amener de cette manière-là. Je vous cache pas que je vis une expérience sociologique intéressante sur l'application Grindr, l'application de rencontre gay. Depuis un mois, je suis donc sur Lausanne. Depuis un mois, j'indique que je suis dans les tribes, en fait. J'indique que je suis pose. Ça veut dire que je suis positif. Les gens ont la possibilité de me rechercher par ce critère de recherche-là. Ouais. C'est hallucinant. Hallucinant, c'est des séronégatifs qui ne prennent pas de PrEP, qui préfèrent avoir des rapports avec des personnes séropositives indétectables, parce qu'ils peuvent avoir justement des rapports ANSEF.
Ouais.
Moi, on m'a déjà invité, en un mois, on m'a invité à Berlin, à Berlin, à Milan, à Lyon, à Montpellier, pour avoir des rapports barbac, parce que visiblement, être séropositif pour la communauté LGBT, c'est être barbacard.
Ok.
Ouais. Wow. Ouais, tu vois les stéréotypes qu'on renforce à l'interne de la communauté.
À l'interne de la communauté. Wow. Parce qu'il y avait aussi quelque chose où on parlait, c'était une banalisation peut-être ou pas de.
Du VIH ?
Du VIH.
Oui.
Il y a une forme de banalisation. Moi,
plus vite on est tranquille, on peut faire du bareback.
C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, j'ai entendu des horreurs dans le type, mais comme ça sera fait.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Oh,
comment on peut réfléchir comme ça ? C'est pas possible.
Comment on peut réfléchir comme ça? Parce qu'on a justement, bon, moi après généralement, je pense que ces personnes-là fréquentent certains lieux de sexe et ont peut-être déjà eu des contacts avec certaines personnes séropositives. Faut aussi comprendre que toutes les personnes qui sont porteurs du VIH ne sont pas d'accord avec mes valeurs et mes principes. Et qu'une grande majorité, je dois avouer, des personnes qui ont pris contact avec moi sur Grindr séropositives ne voulaient pas mettre de préservatif, refusaient le port du préservatif, estimant que c'est ce n'est plus utile dans la mesure où la plupart des IST peuvent s'attraper par un rapport oral. Donc on est bien d'accord qu'on ne fait pas de fellation avec des préservatifs en Suisse. Donc dans la mesure, on résume en se disant, bon, bah, ok, de toute façon, si en faisant une fellation, je peux le choper, pourquoi est-ce que je continuerai à m'emmerder à mettre un préservatif pour le rapport anal? Et comprenez que la plupart des IST, il y a une plus grande prévalence, un plus grand risque d'infection lors du rapport anal que lors du rapport oral, en fait. Elle est là, en fait, moi... Le message pour moi, il n'est pas assez clair. Il est complexe en fait. En même temps, c'est complexe comme problématique à devoir prendre en compte. C'est juste que moi, j'ai un peu peur de ce type de dérive là.
Ok. Est-ce que tu voulais rajouter encore quelque chose ou on...
Je ne sais pas si vous avez peut-être encore des questions.
Oui, des questions. Sinon, on fait gentiment
une
petite pause. Puis on va justement parce que je crois qu'on commençait à aborder aussi un thème qu'on voulait aussi sur lequel on voulait revenir. C'était donc les autres IST. Dont il faut aussi aborder, bien sûr, c'est important avec le retour de la syphilis, etc. Enfin, ça, c'est le sujet sur lequel on va un petit peu plus s'étendre d'ici quelques instants. Aymeric, tu vas pouvoir aussi nous en parler. Est-ce que vous aviez aussi d'autres questions? On a un chien qui est avec nous, il a envie
de... Aymeric, il est venu avec son chien. Alors, il est trop drôle.
Il a envie de se faire remarquer aussi dans l'émission.
Comment, en fait. Tu pourrais lui passer un micro.
Hein, ouais, je crois qu'il pourrait parler avec nous.
Il parle avec nous, quand même.
Moi, peut-être qu'il y a un petit point que j'aimerais mettre en avant qui est peut-être pas suffisamment connu, à savoir qu'à l'heure actuelle, il y a une étude qui est en cours qui s'appelle l'étude partenaire. C'est une étude qui regroupe 1140 couples sérodifférents, c'est-à-dire qu'il y a un partenaire séropositif, un partenaire séronégatif, ou séroneutre et séronégatif, à savoir qu'il y a 40% qui sont gays, 60% qui sont hétéros dans cette étude, donc ils n'utilisent plus de préservatifs. Depuis, donc le rapport préliminaire après 2 ans sort comme constat que le nombre de transmissions VIH est égal à 0 dans ces 1140 couples.
D'accord.
Donc sur la base de ces chiffres et sur la base, ben justement, c'est là aussi que plus on va avancer avec ce type de statistiques, moi quelque part ça me donne un outil cette statistique-là. Pour aussi, lors d'une nouvelle rencontre, parce qu'elle est là, moi aussi, la problématique. Ouais, ce qui est aussi problématique, c'est quand je rencontre un garçon qui me plaît, puis que je suis obligé d'aller le chercher en 1996, avec Tom Hanks dans Philadelphia, pour le ramener en 2016. Ouais. Et justement, sur la base de ce type d'études, ben, ça permet aussi de pouvoir apporter des chiffres, enfin, quelque chose de concret.
Non, mais qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens vivent
la réalité,
véritablement?
La réalité. Moi, ma réalité, j'ai été dans un couple sérodifférent pendant il y a quelques années en arrière, mais ça demande, c'est un protocole. Mm-hmm. Et ça, justement, c'est là qu'on doit faire attention de pas se perdre dans le message, c'est qu'à savoir que pour être dans un couple sérodifférent, c'est déjà 3 mois de rapport protégé. C'est déjà une grosse discussion sur les notions d'exclusivité dans le couple. Mm-hmm. Bien comprendre qu'une interaction avec une autre IST pourrait potentiellement créer des problématiques, et surtout la personne séronégative qui est porteur d'une autre IST est beaucoup plus sensible au risque d'être infectée au VIH également.
Mm-hmm. Aussi.
Donc c'est quelque chose qui est pas anodin. C'est pas quelque chose qui est indétectable. Ah ok, on met pas la capote. Mm-hmm. Non, c'est 3 mois, et ensuite c'est suite à ces 3 mois safe, c'est un protocole complet que j'ai effectué auprès du checkpoint, c'est-à-dire que mon partenaire fait le Big Five. Je fais aussi mon Big Five. On contrôle les CD4 et toutes les IST. C'est une consultation avec le médecin en couple, une consultation individuelle avant de pouvoir lâcher le préservatif. Mm-hmm. Ça, pour moi, c'est un comportement responsable par rapport à la sérodifférence. Problématique, c'est qu'avec le message, maintenant, on dit « t'es indétectable, tu risques plus d'infecter ». Et du coup, moi, je suis désolé, mais oui, alors effectivement, je peux très bien avoir des rapports non protégés pendant 6 mois. Vous serez tous séronégatifs à la fin, il n'y a pas de souci. Mmh. Moi, on me récupère dans quel état?
Ouais, c'est ça. Mmh.
C'est juste la question que j'ai envie de poser, parce que la notion d'indétectabilité, ce qui me pose problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on l'utilise comme une méthode de prévention contre le VIH. Mais, et puis ma prévention à moi, en tant que personne porteur du VIH, on en fait quoi?
Ouais. Non, l'oubli, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que... quelqu'un qui prend, justement, quand tu dénonçais le PrEP,
oui.
Ça veut dire que le danger, il est
moi, à ce jour, dans ma construction mentale, un mec séronégatif qui est sous PrEP, c'est un mec qui a de multiples partenaires, donc pas un partenaire régulier, qui a des rapports non protégés avec de multiples partenaires. Ouais, mais mon gars, pour moi, potentiellement, t'es une usine à maladie.
Exactement, c'est bon, multiplier
en tout cas, la fellation, c'est marqué dommage, hein. La fellation avec capote, ouais. Donc, il n'y aura pas de fellation. Donc, il n'y aura pas de rapport. Point. Ouais. Dégage.
Ouais.
Et sincèrement, ouais.
Oui, oui. Non, mais ça, c'est clair. Bon, après, il faut aussi se dire qu'il y a des mecs qui sont sous PrEP, mais qui le prennent pour de bonnes raisons. Et peut-être.
Quelle serait la bonne raison de prendre une PrEP? Alors, pour moi, la PrEP, il faut déjà comprendre que ce n'est pas un traitement que vous allez prendre sur des longues durées ou à vie. Non. Une PrEP, vous la prenez une semaine avant de partir à CJS, hein, vous la prenez pendant la semaine de CJS, vous la prenez la semaine après CJS, donc le club de vacances gay à côté de Barcelone, circuit. J'y suis allé il y a 2 ans en arrière, c'est n'importe quoi. Au niveau des attitudes et des pratiques là-bas.
J'y suis passé aussi. J'ai passé.
Alors, ouais. Moi, je me suis juste rendu.
L'horreur.
Moi, je me suis juste rendu compte à la soirée mousse. À un moment, j'étais en train de danser. Tout d'un coup, je suis le seul à danser au milieu de la mousse. Oh, je vais sortir. Sachant que le préservatif ne tient pas avec les produits de la mousse.
Ouais,
donc, là, je vais vous dire, c'est juste, tout le monde a des yeux comme des billes.
L'horreur. C'est horrible.
Elle est vraiment là, la problématique. Alors, moi, dans une situation comme celle-ci, où une personne est responsable dans sa gestion de prise de risque, qui dit, bon, ok, moi je pars à CJS pendant une semaine, je risque de consommer des produits, je risque de boire énormément d'alcool, je risque effectivement d'avoir un rapport non protégé. C'est un risque, c'est une évidence. Mmh. Vous êtes complètement pété à 5h du matin en after sur la plage. Ouais, vous arrivez sur la plage le dimanche matin, il y a plus de 150 personnes en train de s'envoyer en l'air sur la plage à 5h du matin. Hein.
Ok.
Et voilà le...
J'ai pas eu le temps pour de ça, voir. Moi j'ai juste bu un verre, j'ai dormi, le lendemain j'ai repris la route.
Moi je trouvais que c'était une expérience sociologique intéressante.
Il y a de quoi analyser beaucoup de comportements dans ce genre de situation.
Dans une situation comme celle-ci, j'arrive à comprendre de prendre une PrEP. Hein. Maintenant, dans la notion de dire, je vais prendre une PrEP, comme ça, je peux avoir des rapports non protégés quand je le veux, comme je le veux. Non, déjà, au niveau du traitement, mais merde, au bout d'un moment, c'est pas des fraises tagades. Vous vous rendez juste compte que sur du long terme, au niveau de la chimie, moi, je vous cache pas que ça fait 7 ans que je bouffe. Là, on parlait de trithérapie, il y a 8 molécules actives, on est bientôt dans des octothérapies. Vous comprenez qu'il y a quand même une incidence de bouffer autant de cachets que ça.
J'imagine
et
que
je trouve
pas
qu'à un certain moment, préférer bouffer des cachets plutôt que mettre un préservatif, c'est pour moi, s'il y a quelque chose de l'ordre de l'absurde.
Clairement. Je crois qu'on va en rester là, parce qu'en plus de ça, le temps passe extrêmement vite. Et on va revenir donc d'ici quelques instants pour parler des autres IST. Puis juste avant, on a donc Paul avec Êtes-vous queer ?
Maintenant ?
Je commence à perdre ma voix. Donc ça va arriver dans quelques instants, mais un petit peu de musique entre deux, donc t'as encore un petit peu de temps. Et puis bien sûr, on va aussi faire un petit peu le tour de ce qui va se passer, notamment à Alpaguet d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. Ça marche ?
Ouais.
Faisons comme ça.
Voici Aluna Georges qui arrive tout de suite sur Vibration Gay Radio.
Chromosome X sur Vibration Gay Radio.
Precious and fragile things need special handling.
Vibration Gay Radio, c'était Dépêche Mode à l'instant avec Precious en souvenir. Nous sommes toujours dans cette émission Chromosome X. Ouais, j'ai dit faux.
Non, non, c'est juste, mais Precious. Nous on s'est dépêché parce qu'on était un petit peu sur le...
Oui, on était en Dépêche Mode.
Ah, ça commence déjà bien, on est bien parti pour cette émission. Et surtout la partie Êtes-vous queer ?
Voilà, c'est la chronique Êtes-vous queer. Et puis ce mois-ci, on s'attaque à un gros morceau.
Ouais, à l'attention.
Ah ouais, mais vraiment un gros morceau. Là, ça faisait. C'est sur les bons conseils de Lucy Hopkins, donc qui était dans l'émission précédente, le mois dernier, qu'elle m'a fait découvrir un artiste américain, qui a un personnage incroyable. On pourrait la définir un peu comme la sœur jumelle maléfique de Peaches, dont je vous ai parlé aussi dans une précédente chronique. Mm-hmm. Et voilà, ce personnage a été créé par Paul Swallow. Donc le personnage a été créé par Paul Swallow et a vu le jour en 2011 à Austin au Texas, et elle s'appelle Christine.
Christine donc, avec deux E N.
Avec deux E N E à la fin.
Ouais.
Et Christine, c'est quoi? Elle se définit elle-même comme une drague terroriste.
Pardon. Ça fait rire. Hein.
Voilà. Et en gros, c'est tu prends Britney Spears, tu la jettes dans une décharge publique, livrée elle-même pendant 6 mois.
Et ça donne ça.
Tu récupères Christine, quoi. Et donc pour la petite histoire, justement, il avait son premier personnage de drag queen. Paul Solo était une espèce de grande duchesse américaine, très propre sur elle, avec le petit collier en perles. Et puis il est originaire de la Louisiane. Et après l'ouragan Katrina, il s'est retrouvé sans rien. Il a fait une grosse dépression. Et puis toute sa vie est partie en live. Et est né ce personnage de Christine, qui a commencé à venir lui parler pour lui dire, mais non, il n'y a pas besoin de cette grande bourgeoise pour que ça se passe bien. Et effectivement, donc son personnage est une drag queen trash qui plonge dans un espèce d'univers glamour poubelle.
Oui, assez sale. Hein.
Assez sale, parce que j'ai vraiment très avant. Sale même. Et sur un son qui est, puisque donc Paul Solo donc est compositeur, auteur et interprète des titres de Christine. Et donc sur un son qui est assez électro-punk, avec des grosses influences rap, on va dire. C'est assez indéfinissable, comme toujours dans...
C'est un mélange de beaucoup de choses.
C'est un gros mélange d'un peu tout, comme souvent dans le... Un pot pourri.
Un pot pourri,
oui, j'ai un bon dire, pot pourri. Mais... Un bon pot pourri, justement. Et donc, son univers, bien sûr, son univers bouscule les codes de ces divas américaines surféminisées et qui dérangent. Et au final, ça fout vraiment, vraiment, vraiment mal à l'aise. Mais c'est drôle. C'est quand même très drôle, même si effectivement ça faisait très longtemps que j'étais pas tombé sur un artiste qui me foutait les boules. Enfin, il y a un clip qu'il faut voir qui s'appelle Big Shot.
Mais tu nous avais montré ça hors antenne, hein. C'est
ouais,
juste et, qui mal à l'aise d'entrée. Wow,
juste le début du clip déjà, ça dérange énormément. Mais après voilà, il faut découvrir le personnage, ce personnage de Christine qui produit ses clips en général avec $20. Et puis elle appelle un pote qui prend un caméscope et puis en avant c'est parti. Mais c'est très créatif, c'est drôle, ça amène à se poser beaucoup de questions puisqu'elle reprend tous les codes justement de ces Britney Spears, Rihanna, Shakira et autres, mais avec 20 dollars.
Ouais, c'est ça, mais décalé.
Et puis des petites culottes de petites filles trouvées dans une décharge publique.
Ouais, voilà. Décalé et sale.
Décalé et très sale.
Ah non, c'est vrai.
Donc voilà, même il faut aller la voir en concert. J'ai pas encore eu l'occasion, mais les retours sur les concerts sont hyper cool puisque c'est vraiment du gros show et puis du gros show
du trash, ouais.
Avec des sacs poubelles encore. Hein, ouais. C'est ça reste hyper
genre
des productions
Naples, mais en
très
live,
légères, ouais. Mais bien faites. Même et puis on s'attache vite à ce personnage, même si on n'a pas trop envie à être invité à monter sur scène pour qu'elle nous fasse un bisou. Mais voilà.
Non, on ne veut éviter les bisous.
Non, ouais, on va franchement éviter. Je suis tombé aussi sur un tuto sur YouTube où Christine explique comment elle se maquille. C'est à voir. C'est à voir.
On te laisse tenter l'expérience du bisou.
Voilà. Donc, elle est là pour nous ce soir pour nous faire des bisous.
Non, non, non. Non, mais qui sait, un jour on la verra peut-être traîner du côté d'Alpagué, ça pourrait être drôle, quoi.
Oh là là.
Non, mais c'est sympa. C'est vraiment des personnages qui bousculent, qui amènent vraiment à se poser des questions. Et puis, des grands créateurs, c'est très proche du clown. C'est pour ça que Lucie m'en a parlé aussi. Et puis, voilà, je vous invite à aller découvrir donc Christine.
On peut écouter aussi une petite partie, c'est
ça? Et puis, on va écouter African Mayonnaise.
Déjà le titre il claque,
qui est un titre de 2012. Le clip est absolument fabuleux, il a reçu pas mal de prix et on l'écoute tout de suite. I am your new celebrity, I am your new America, I am the piece of filthy meat that you take home and treat to yourself. Ooh, watch and whack it while I work it, cross your face, ain't no disgrace, this is the place to slip your dirty junk inside me. I'm your celebrity, I'm what you want to be. Come take a piece of me and burn it in your back room. Piggy, piggy, pork chop, don't stop, lap up that slop. Just push that pain away with that crap y'all eating every day. Target magazines, they don't bust the seams. Money making dreams, I ain't got them, I don't want them. I see the shit y'all reading, I see the shit y'all breeding. My pepperoni's feeding. Now revolution, man. African mayonnaise, 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 African mayonnaise.
Voilà pour la chronique Êtes-vous queer avec Paul et donc Christine. Ça vaut la peine
Christine.
Mais ça vaut la peine de voir le clip parce qu'alors en effet vous avez pas envie de
c'est assez barge, t'as pas envie qu'elle vienne te rouler des palos hein.
Non, effectivement. Et le maquillage alors waouh.
Ah justement, elle s'est bien ratée hein. Tu vois le trait de maquillage, ah, le trait de rouge à lèvres qui va.
Je crois que c'était très bien ce que tu as dit au niveau du Britney Spears abandonné dans une
décharge
pendant 6 mois, tu la récupères après, c'est parfait. On va passer tout de suite à l'agenda et ensuite on revient sur cette émission santé sexuelle dans Chromosome X parce que le temps passe extrêmement vite. Il faut quand même citer le 17 mai, la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Et donc Alpagué qui s'est aussi impliqué et qui s'implique dans cette journée mondiale avec un flyer qui est notamment en train d'être partagé sur les réseaux sociaux. C'est aussi un petit peu pour prendre le contre-pied de tout ce qui s'est passé en Valais ces derniers temps. Hein,
voilà, ces dernières semaines où on a pu beaucoup justement parler d'homophobie après certaines affaires politiques qui ont eu lieu. Et puis la réponse d'Alpagué, c'est simplement que s'il y a une forme de fermeture qui est en train de se passer à un endroit, la réponse c'est que Alpagué ouvre une porte tous les vendredis soirs à 20h. C'est la porte de son local, il y a un bar, c'est cool, on boit des coups, on discute, c'est un endroit justement d'ouverture et puis d'échange et de rencontre.
Et ouvert à tout le monde.
Et ouvert à tout le monde justement et c'est ça la réponse quoi.
Mm-hmm. Pour, exactement.
Simplement dire ok, alors venez et puis peu importe quelles sont vos motivations, venez simplement boire un verre et puis déjà ça fera un tout petit peu avancer la chute de l'homophobie, on va dire.
Exactement.
On rencontre des gens super, super bien, et puis on peut en parler justement très ouvertement et sans tabou, en fait.
Sans que ça fasse polémique. On va parler normal, voilà.
Ouais. Et donc pour cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie, il y a aussi une carte de la Suisse qui a été réalisée sur laquelle vous pouvez voir tout ce qui se passe au niveau des cantons. Le site, ça s'appelle IDAHOT, donc c'est IDAHOT.LGBT simplement, comme ça vous pouvez donc voir tous les événements qui se déroulent en Suisse. Ensuite, on peut parler aussi du 21 mai, la soirée mexicaine, dépistage gratuit à Alpaguet, donc pour la première en Valais. Hors mur, donc pour cette soirée dépistage, dans le cadre de la campagne Break the Chains, tout ça dans une bonne ambiance, et donc c'est le 21 mai à partir de 20h, les dépistages commenceront
à 21h.
21h, exactement, voilà, tout à fait. Et puis toujours Break the Chains jusqu'à la fin du mois de mai, hein. Emeric.
Oui, voilà, on rappelle qu'on peut se faire dépister donc dans les centres CIPI à l'ICHV, en moyenne un billet de 10 francs, et
voilà. On enchaîne tout de suite avec notre dernière partie pour cette émission. On va revenir sur la thématique des infections sexuellement transmissibles cette fois-ci. Parce qu'on avait parlé jusqu'à maintenant du VIH. Il y a d'autres infections, il faut en parler.
Justement, ouais, parce qu'est-ce que vous connaissez, vous
voilà. La liste.
Qu'est-ce que vous connaissez comme IST, vous?
On voulait dire la liste, on va parler de la liste.
Syphilis.
La syphilis, ouais.
Hépatite.
L'hépatite, ouais. Laquelle hépatite?
Je sais qu'il y a une lettre après, mais je crois que c'est la B ou la C.
On parle principalement de la B.
La B, ouais.
Mais il y a la C aussi.
Oui.
Ouais. Y a pas mais généralement, qui est de contact de sang à sang, donc principalement lors d'infections ou lors de rapports, on dira un peu hard, de type non, c'est inscrit sur le site de l'OFSP, tout simplement.
Alors, si c'est écrit sur le site, on a le droit de parler de fist.
Allons-y. Si l'Office fédéral parle de fist, on peut parler.
On peut y
de fist.
Aller alors.
On s'égare, Non, mais qu'est-ce que vous connaissez de ce dos?
Hépatite B, il y a aussi tout ce qui est papillomavirus.
Oui. Ouais.
Gonorrhée.
Ah, j'allais dire.
Vous en manquez. De.
Chlamydia.
La chlamydia, ou les chlamydia. Ouais.
Je sais jamais comment on dit, On dit la chlamydia ou les chlamydia ou
C'est une infection à chlamydia.
Une infection à chlamydia.
Okay.
Parce que c'est quoi? C'est une bactérie, un virus?
Alors la chlamydia, c'est des bactéries. Mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de bactéries, donc du coup, c'est vrai qu'il faut faire le test pour savoir laquelle et pour connaître le bon traitement, parce qu'il y a différents traitements aussi en fonction de la bactérie. Donc c'est vrai que on peut dire ouais, j'ai chlamydia, oui, mais t'as laquelle chlamydia?
T'as laquelle?
C'est comme les cartes Pokémon, ça se multiplie.
C'est ça. Puis tu les collectionnes.
Tu les échanges aussi.
Puis tu les collectionnes si tu vas à Sitges.
Si tu te protèges pas, oui, tu les échanges.
Tu les collectionnes, tu les échanges avec tes copains et tout ça.
Ah, cool. C'est horrible.
Alors, moi, il vous en manque une.
La dernière, c'est un truc hyper compliqué là.
Non. Herpès génital.
OK.
Ah oui.
On la considère quand même comme une infection sexuellement transmissible.
Bah oui. L'herpès, quoi, c'est ça?
Ouais, l'herpès, ouais.
Okay.
Oui, après, ça se soigne tout à fait avec des antibiotiques ou des choses comme ça. C'est pas quelque chose de.
La plupart des IST se soignent assez bien.
Ouais.
Voilà. Pour le moment.
Pour le moment, oui. Mm-hmm.
Oui, parce que comprenez bien qu'à force de faire à répétition des IST, vous vous retrouvez à commencer à avoir des mutations dans ces différents IST. Typiquement, j'ai eu une discussion un petit peu musclée avec mon médecin en début d'année concernant ces notions d'indétectabilité, le fait de devoir porter ou non un préservatif suite à ces changements de paradigme. Et elle m'a donné quand même un argument qui tient la route. Il faut comprendre qu'il y a un article qui est sorti dans la presse médicale au 17 avril. Les Anglais confrontés à une gonorrhée résistante. Super gonorrhée, cette souche est antibio-résistante, c'est-à-dire qu'elle résiste aux traitements antibiotiques habituels utilisés pour soigner cette infection sexuellement transmissible. Comprenez bien qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de vaccin et c'est 34 personnes à Londres qui sont à l'heure actuelle en train de vivre une chaude pisse quotidienne et continue. Donc je ne sais pas si vous avez peut-être vécu cette expérience. Moi, c'était un petit cadeau d'un de mes ex, m'a ramené d'une de ses escapades de Zurich. C'est pisser des lames de rasoir au point à en pleurer.
Okay.
Je dis vraiment. Et moi, je me fais un peu plus de soucis par rapport... C'est plus tant le VIH qui me fait du souci à l'heure actuelle, c'est plutôt par rapport à ces autres IST. Comprenez bien qu'une gonorrhée s'attrape également lors d'une fellation si on ne met pas le préservatif.
Bah, je crois que à Non, parce que
qu'est-ce qui se
passe, quasiment toutes peuvent s'attraper justement ces infections.
Ouais. Oui.
Tout à l'heure,
C'est pour ça qu'une des règles de se faire sexe, c'est pas de sperme ni de sang dans la bouche.
Alors justement, comment ça se passe? Parce que alors là, il y a peut-être un sujet que je peux lancer dans le débat et que moi je me pose souvent la question, c'est que on parle de la fellation sans capote, avec capote. Par exemple, en France, ils vont beaucoup plus parler toute fellation doit se faire avec capote. Mais en Suisse,
est-ce que réellement des gens ont des fellations avec capote?
Non, voilà, justement, c'est ce que j'allais dire ensuite. Des fellations avec capote, voilà.
Et tous autour de la table.
Ouais, il faudrait voir la table. Voilà. Tous les mecs autour de la table sont en train de faire. comment dire
Non, mais franchement, faut être sincère, dans la réalité. La plupart des gens avec qui on discute nous disent jamais qu'ils font des fellations préservatives.
Surtout, c'est que culturellement, le message de prévention de l'aide suisse contre le sida, tout comme l'OFSP, a toujours été effectivement de mettre un préservatif lors des rapports anaux, mais il n'est pas nécessaire de mettre un préservatif lors d'une fellation. C'est simplement éviter d'avoir du sperme ou du sang dans la bouche, en fait. Donc il est bien clair qu'en ayant eu ça culturellement depuis le départ comme règle de se faire sexe, l'utilisation d'un préservatif pour une fellation. Et puis ça vend du rêve, hein, je vous le dis franchement. Ouais. Enfin, je sais pas, ça me donne pas envie.
Non. Et quand on dit par exemple que, je sais pas, là, on prend la syphilis par exemple, elle s'attrape donc aussi en respectant les règles du safer sex, non?
C'est une infection de contact, donc même de contact, même en ayant un rapport anal protégé,
C'est
de contact, tu peux avoir une infection à la syphilis même en respectant les règles du safer sex, tout à fait.
C'est le cas pour toute une bonne partie de ces IST ou bien pas?
Effectivement.
Par exemple, cette fameuse gonorrhée, on peut aussi la voir.
Oui, on peut aussi la voir même avec préservatif. C'est pour ça que c'est important de se faire dépister, pas uniquement du VIH, mais de tous les autres.
Une des grosses réponses, c'est le dépistage régulier.
Voilà. Mais de tout type d'IST. Souvent, on dit je me suis fait dépister. Mon statut sérologique, il est négatif. Mais le reste.
Le Big Five, comme on dit.
Voilà, le Big Five, on appelle ça le Big Five.
Et pour ça, pour le Big Five, donc là, on sait que. Il y a les centres SIP pour tout ce qui est donc VIH et notamment syphilis aussi. Il y a le Big Five, on peut le faire dans les centres SIP ou ça, il faut vraiment plutôt se diriger chez un médecin ou qui fait vraiment les prises de sang de manière totale.
Alors déjà, un petit conseil, j'éviterais d'aller chez un médecin.
Ok.
Parce que l'annonce d'un test réactif du VIH auprès d'un médecin informe directement la LAMAL et vous n'avez aucun moyen de pouvoir gérer, par exemple, une assurance complémentaire ou pouvoir faire une assurance vie encore aujourd'hui à l'heure actuelle. Les assurances estiment que nous sommes trop à risque pour nous octroyer. En fait, ils rentrent même pas en matière si on demande d'avoir une assurance complémentaire en tant que personne porteur du VIH encore aujourd'hui.
Ok, d'accord.
Donc, j'invite plutôt les personnes à se faire tester de manière anonyme afin d'avoir justement le temps peut-être de mettre en place certaines choses avant que le test soit, enfin, avant que la situation soit connue par les assurances.
Ouais. Ok, d'accord. C'est un bon conseil. À retenir aussi vis-à-vis de ton expérience.
Oui, c'est un conseil parce que moi j'ai parce que moi je suis passé par une clinique et puis que je n'ai pas eu le choix.
Ouais, voilà, simplement.
Du moment où ça a été annoncé par le biais de la clinique, enfin.
Voilà, là, ça part à tout le système s'enchaîne quoi.
Exactement. Voilà. Ouais.
D'accord. Donc ouais, pour ce qui est des autres IST, je sais pas, vous avez.
Qu'est-ce que vous connaissez vous des IST? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez Vous avez des expériences par rapport à ça?
Moi, sur un de mes tests, j'ai eu gonorrhée qui était positif. Mais sans symptômes.
Ouais, ça, elles sont régulièrement asymptomatiques. Et puis, du coup, comment t'as pris vu que tu ne t'y attendais pas du tout?
Non, je m'y attendais pas tellement. Mais bon, après, j'étais dans un centre de dépistage à Paris où, par contre, l'accompagnement était vraiment, vraiment super. Donc, un petit retour sur le médecin qui m'explique. Qu'est-ce que c'est? Comment j'ai pu l'attraper, effectivement? Et puis ensuite, un traitement antibiotique. Effectivement.
La traditionnelle piqûre dans les fesses, c'est ça?
Oui. Ouais. Oui, j'ai eu le droit à une piqûre dans les fesses, effectivement. Et puis aussi à des comprimés à prendre après derrière.
Tout à fait, ouais.
Mais voilà, effectivement, rien de bien grave. Par contre, après, refaire un test, bien sûr, dans la foulée pour vérifier que tout a bien fonctionné. Et puis, se tenir à jour, en fait, toujours là-dessus, c'est toujours le. Je pense que c'est le,
ouais, c'est ça, le principe.
C'est le point le plus important, en fait. Mmh. Dans la mesure où, maintenant, on est chacun dans des périodes de vie un peu différentes, mais dans la mesure où vous êtes actif sexuellement, typiquement, vous êtes célibataire, vous avez de multiples partenaires, j'estime qu'un test, au moins une fois tous les 6 mois, une fois par année, moi, j'estime que tout HSH qui a des relations, qui est actif sexuellement, une fois par année, ça sera un minimum. Moi, je le fais on me le fait une fois par année.
Pas que HSH, en fait.
Non, même pas que
l'ensemble de la population.
Mais voilà, c'est ça. C'est simplement se tenir au courant, parce qu'il y a, toutes ces IST dont on parle, il y en a certaines qui sont justement, où il n'y a pas de symptômes. Mm-hmm. Donc, t'es porteur. Donc, en plus, au-delà de ça, parce que le problème, c'est que du coup, quand j'ai eu le résultat, par contre, j'ai pris ma responsabilité d'aller contacter mes partenaires sexuels pour les avertir de ce résultat-là. Mais le problème, c'est qu'effectivement, c'était porteur d'un truc comme ça, et qu'en plus, quelqu'un de responsable comme moi, je me suis retrouvé vachement mal, quoi. Ça m'a plus fait chier que de devoir appeler les gens pour leur dire ça, mais je trouvais ça tellement important que le traitement est de savoir que j'avais chopé une gonorrhée, quoi. Mais par contre, c'est le seul moyen de le faire, et puis d'éviter de refourguer des trucs aux autres.
Alors, essaye d'imaginer quand j'ai appelé le partenaire qui m'a infecté pour lui annoncer sa propre séropositivité, parce que comme dans 80% des infections du VIH actuellement, les deux partenaires ne sont pas au courant. Enfin, le partenaire séropositif n'est pas au courant de son statut. Hein. Bien sûr. Ça a été un grand moment de solitude, effectivement. J'avais 3 partenaires à ce moment-là. J'avais eu les 2 tests réactifs, enfin, les 2 tests négatifs des 2 partenaires dont j'étais persuadé que c'était soit l'un, soit l'autre. Et ça a été la personne dont je m'y attendais le moins. Mmh. Et un coup d'un soir, que j'ai dû rappeler 3 mois après le rapport pour lui dire, bon, écoute, je sais pas si tu te rappelles, on s'est vu fin février, tu m'avais dit que ton test datait du mois de novembre, bah, écoute, je suis désolé, tu peux aller le refaire.
Ouais,
ça, c'est aussi un moment de solitude.
Ça doit pas être drôle.
Mais c'est, pour
une gonorrhée, c'est pas très grave. Mais je trouve ça assez important.
Je pense que pour n'importe quelle IST, dans la mesure où elles peuvent être asymptomatiques, c'est faire preuve de responsabilité. Enfin, c'est être responsable, c'est être un homme quelque part, que d'assumer le fait d'appeler ses partenaires pour lui dire, écoute, là, j'ai un petit souci, va te faire tester.
Bah, bien sûr.
Clairement.
Voilà, c'est quelque chose d'important. Et puis, pour cette chose-là, pour être responsable, il faut aussi se faire dépister et, voilà, ça va de pair, quoi. Et puis de se dire qu'effectivement, si tu te fais dépister, que t'as quelque chose et que tu fais pas ce geste-là non plus d'aller vers tes partenaires, c'est de te dire aussi que peut-être que, tes partenaires le feront pas non plus dans l'autre sens, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Donc, puis donner l'exemple. Et puis moi, pour une gonorrhée, c'est vrai que j'étais plutôt à rigoler au téléphone. Je fais bon, écoute, voilà. J'étais à me faire dépister et puis j'ai eu un positif sur gonorrhée. Donc bon, maintenant, je te le dis, vas-y quoi. Enfin voilà, je te donne l'information, t'en fais ce que tu veux, mais je tenais juste à te le dire. Et puis plutôt sur un côté assez drôle quand même, mine de rien. Mais c'est donc c'est pas si lourd que ça à faire. Puis ça permet de reprendre contact des fois avec des gens qu'on a.
Le bon moyen.
Bon, c'est pas le meilleur moyen.
Ouais, alors, je vais te dire Joker.
C'est un peu la technique Christine pour récupérer ses ex.
Salut, j'ai une gono, on se revoit.
Non, mais voilà. Ok. Vous avez d'autres.
Il y a quelque chose de similaire en fait dans les. Qui se traite en tout cas par antibiotiques aussi, c'est la lymphogranulomatose vénérienne, c'est juste
Oui, tout à fait. Oui. Bon, c'est vrai qu'on n'en a même pas parlé. C'est vrai qu'on n'en a même souhaits. Pas.
Ouais, écoute, bon,
mais elle n'est pas facile
à
retenir,
à en parler. C'est aussi une infection
sexuellement transmissible, hein, donc c'est une bactérie très rare dans la population en général. Hein, en fait, c'est pas le truc qui a le plus,
okay.
Mais elle peut justement être chopé, si tu veux, chez les HSH aussi, très fréquent.
Ah, ok, d'accord.
Voilà.
Mais symptômes, il y a quelque chose, c'est quoi ça? Je connais pas.
Alors.
Je la connais pas tellement non plus, en fait.
D'accord.
J'ai très peu d'expérience là-dedans,
on ira acheter un œil.
Au niveau des symptômes, alors au premier stade, un ulcère se forme au point d'entrée de la bactérie. C'est-à-dire qu'au niveau du pénis, ou de l'anus, ou de la bouche, cet ulcère, il est pas douloureux. Et il passe souvent inaperçu. Donc ça choque, à mon avis, comme pour la syphilis. Au second stade, on observe typiquement un gonflement des ganglions lymphatiques, accompagné de douleurs, de fièvre, de saignements et d'un écoulement peignien ou anal purulent. L'infection peut également être asymptomatique à ce stade. Si on ne la traite pas à temps, l'infection peut provoquer des lésions laissant d'importantes cicatrices et exige une intervention chirurgicale.
Donc il y a quand même des symptômes. Ouais, j'avais jamais entendu celle-là.
Ouais. Ouais, je trouvais le nom assez sympa. Quoi.
D'accord. Très facile à dire.
On peut visiblement granulomatose.
Voilà, on peut l'appeler NGV.
Quand tu rappelles ton ex. Oui, salut, j'ai
une info. Oublie, on va boire un verre.
Toutes mes félicitations.
Vous êtes l'heureux acquéreur d'une lymphogranulomatose vénérienne.
Non, bah oui. Mais pourquoi pas?
Après, voilà.
Il y a
de la presse aussi.
Il y a pas mal d'informations. Du coup, tout ça, on retrouve effectivement sur le site.
On retrouve vraiment tout sur le site soit Dr Gay, soit le site de l'Aide Suisse.
L'Aide Suisse contre le sida.
Voilà. C'est vrai que sur Internet, il y a pas mal d'informations. Puis après, voilà, si on veut des informations plutôt orales, bah, aller sur notre site, l'ICHV.
Bah ouais, aller rencontrer quelqu'un, bien sûr.
Par contre, Gay aussi, pourquoi pas?
Par contre, faut faire attention de ne pas aller sur n'importe quel site aussi, parce que.
Non, voilà, c'est important de
vraiment aller sur des sites bien spécifiques
et officiels.
Voilà, faut que ce soit officiel, parce que sinon ils peuvent dire n'importe quoi, tout et n'importe quoi, et du coup, ça peut poser des graves problèmes si on interprète mal les choses.
Ouais.
Donc voilà, Aide Suisse contre le sida ou Dr Gay. Ouais,
faut que ce soit officiel, puis qu'on connaisse les réels symptômes, plutôt qu'on aille sur Internet, puis qu'on pense que. On va mourir dans les deux semaines parce qu'on a une syphilis ou je ne sais quoi. On trouve un peu de tout et n'importe quoi sur Internet, donc c'est important d'être vigilant et de contacter les personnes qui sont responsables là-dedans.
Ouais. Et puis donc toi, on peut te retrouver deux fois par mois à Alpagay ou avec Alpagay, ouais. Toi, on peut discuter de ça.
Ouais. Et puis si je ne sais pas répondre, je me renseigne sans autre. Voilà. Par exemple, pour la NGV, je n'étais pas plus au courant que ça. Bah, du coup, voilà, je peux me renseigner et puis...
On aura l'info la prochaine fois que tu viens à Alpagay.
Voilà,
alors,
t'auras
excellent, génial.
On va rappeler tes actions.
Alors, si vous voulez avoir plus d'infos, si vous voulez avoir plus d'infos sur LGV, il faut venir
Alpagay.
Quand est-ce que tu viens la prochaine fois?
Je sais pas, faut que je voie dans l'agenda.
Mais on avertira sur Facebook du coup.
Oui, voilà
exactement.
Voilà.
Ta venue.
Mais là, sur le 21, mais ça c'est sûr.
Ah bah le 21, toi.
Les conseillères centre-cible, donc elles sont
tout là.
Excellent, merci beaucoup. On est vraiment au terme de l'émission là. Donc je sais pas si vous avez quelque chose que vous voulez encore juste dire en dernier.
Ouais, alors moi j'aimerais juste un mot sur un point, c'est plus peut-être m'adresser à mes pères, aux personnes porteurs du VIH, HSH donc. Peut-être de les inviter, d'essayer de sortir de l'isolement. Il existe des groupes. On est en train de gentiment monter un groupe sur Lausanne par le biais de l'association Vogue qui s'appelle Envie. Il sera un groupe de parole, mais également pour nous donner l'opportunité de nous rendre la parole par rapport à toute cette problématique et de pouvoir simplement donner notre point de vue tout en étant quand même dans la sécurité d'un groupe sans avoir besoin de s'identifier ou de se faire prévisibilité. Donc j'invite peut-être les gens à consulter le site de Vogue, en fait les personnes vivant avec, qui souhaiteraient justement pouvoir rejoindre ce groupe et pouvoir casser ce silence et cet isolement qui pour moi est ce qui tue à l'heure actuelle les personnes vivant avec le VIH.
Bah c'est ce qu'il y a sur ton t-shirt, silence est égal mort.
Oui,
exactement.
C'est les trois concepts d'ACT UP, silence égale mort, colère égale action, action égale vie.
Ok, excellent. Voilà. Je crois qu'on peut clore...
Ouais, c'est un joli mot de fin. Hein.
Sur ça, voilà, exactement. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu témoigner.
Merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir apporter ce message.
Et à tout bientôt.
À bientôt.
Au revoir aussi. Paul et Sam. Et on se retrouve dans une prochaine chromosome.
Au revoir. Oui. Volontiers.
À bientôt. Bye bye.
Bye bye.